Bienvenue au podcast dans le salon de l'immobilier. Ici Philippe, accompagné de son frère Simon. Nous découvrirons ensemble les histoires derrière les courtiers immobiliers à succès dans la grande région de Québec. L'immobilier est quelque chose qui vous intéresse? Venez découvrir les humains derrière les courtiers tout en apprenant sur ce domaine passionnant. Bonne écoute.
Yes, bonjour, bienvenue tout le monde à l'épisode 2 du salon de l'immobilier. Je veux vous souhaiter la bienvenue dans cet épisode-là. On est avec Mathieu Chagnon aujourd'hui. Ceux qui ont suivi là, les lives sur Instagram là, il y a quelques années, 2-3 ans, Mathieu avait répondu présent. Je trouvais ça cool de le réinviter là, pour un autre épisode dans le salon de l'immobilier. Encore une fois, présenté par Twin Shirt. Ça fait quoi ça, Simon, Twin Shirt?
Yes, Twin Shirt, entreprise en impression de vêtements. Fait que tout ce qui touche l'impression de vêtements, on est là, broderie, sérigraphie. T'as besoin d'un chandail pour une équipe sportive, corporatif, n'hésite pas à nous écrire Twin Shirt.
Yes, puis on est aussi avec Hugo, qui a trop aimé ça la première fois, fait qu'il voulait revenir aujourd'hui. Merci Hugo d'être là.
Merci de l'invitation.
On va commencer par présenter notre invité, Mathieu. J'aimerais ça que tu nous parles un peu comment tu as commencé ton parcours dans l'hypothèque. T'as-tu fait d'autres métiers avant? Ça a commencé par où?
Écoute, oui, j'ai fait d'autres métiers avant. Avant d'arriver là, ça a été un drôle de parcours. Au début, à la base, quand j'ai étudié au cégep, j'ai étudié en marketing, moi, à base. J'étais un gars de marketing au cégep à Sainte-Foy. Je suis parti après ça pendant un an vivre à Toronto pour prendre mon anglais, tout ça, puis revenir ici pour aller peut-être travailler dans une boîte de communication, mais ça s'est pas passé comme ça. Fait qu'à un moment donné, je suis retourné au banc, sur les bancs de l'université, je suis retourné à l'école. J'ai fait un cours en administration, un certificat en planification financière, ce qui m'a amené chez Desjardins à la Caisse de Cap-Rouge, qui est pas loin d'ici.
Okay.
J'ai fait ça pendant une couple d'années avec Desjardins. Après ça, j'ai roulé ma bosse dans certaines banques. J'ai travaillé à RBC, BMO. Fait que, tu sais, j'ai commencé en 2010.
Côté financier.
C'était
des hypothèques?
C'était des ouvertures de comptes, c'était du crédit personnel. Je faisais tout. Fait que quand un client arrive avec quelque chose, souvent, je comprends aussi qu'est-ce qui se passe là-dedans. Fait que, tu sais, la solution, des fois, il faut qu'on déborde un petit peu juste de l'hypothèque. Fait que, tu sais, des fois, je suis capable d'aller jouer avec les autres outils qu'on peut avoir à la disposition des clients pour être capable de faire une transaction. Fait que c'est ça. De 2010 à 2017, j'ai fait ça en succursale. En 2017, j'ai décollé. Là, j'étais allé représentant hypothécaire chez la banque CIBC. J'ai fait ça jusqu'en 2020. Puis après ça, j'ai pris mon cours de courtier hypothécaire. Puis c'est là où est-ce que je suis rendu maintenant. Là,
puis à l'université, c'est à l'Université Laval, ici à Québec?
Non, je l'ai fait à l'UQAR à Lévis, moi.
OK, à l'UQAR à Lévis.
Il y avait un programme, ça s'appelait planification financière, certificat pour Desjardins ou quelque chose du genre. Fait que Desjardins devait commanditer ça, parce que j'étais réveillé déjà chez Desjardins pendant mes études à temps plein. Puis je faisais mes études à temps partiel. Ça a pris un peu de temps, mais j'y ai arrivé.
T'es-tu encore à Lévis, présentement?
Oui, je reste encore à Lévis, moi.
OK. Ah, ben c'est cool. Puis quand tu étais au cégep, t'avais-tu déjà un intérêt pour ça ou c'est quand que l'intérêt est venu?
Ah, c'est une bonne question. L'intérêt est venu pour la planification financière à la base. C'est que, j'avais, parce que mon oncle est décédé maintenant, mais à l'époque, mon oncle était planificateur financier. Puis il m'a dit, écoute, Mathieu, tu sais, je faisais, avec le marketing, ça décollait pas comme je voulais. Fait qu'il m'a dit, tu devrais prendre ton cours, puis on va pouvoir partir en business ensemble. Fait que j'ai dit, ouais, ça serait pas pire, ça. Puis finalement, c'est ça, je suis allé faire mon cours suite à ça, puis lui, il est décédé entre-temps, mais c'est ça qui m'a amené à aller retourner aux études, puis à reprendre mon cours. Même s'il y a eu le décès, ben, j'ai continué pareil là-dedans. Là, pour.
C'était dans le but d'aller le rejoindre.
C'était dans le but d'embarquer. C'était une business que mon grand-père avait parti à l'époque, en assurance, puis tout ça. Mon oncle, lui, avait amené le côté assurance, mais il avait aussi développé le côté placement. Fait qu'à la base, c'était ça mon idée, mais tu sais, les idées, des fois, ça change. Puis vous, comme. J'en suis la preuve, là, je ne suis pas en tout d'un placement, je fais de l'hypothèque. Puis quand je suis arrivé à la banque, à un moment donné, c'est que je me suis aperçu que ces dossiers-là de crédit, ça m'intéressait. Sauf que quand j'étais en succursale, j'avais peut-être pas tout le temps nécessaire que je peux accorder à ces dossiers-là. J'ai voulu me spécialiser là-dedans à cause de ça aussi.
En 2017, tu es allé représentant, c'est ça?
Oui, un démarcheur ou un représentant pour la banque CIBC.
Puis pour donner courtier hypothécaire, ça, c'est...
Ça prenait un cours, mais ce qui m'a donné une chance, moi, en 2020, c'est qu'avec les années d'expérience que j'avais, j'ai réussi à me faire créditer des cours. Fait qu'au lieu de prendre un an et demi à faire le cours, je l'ai fait à peu près en 3 mois. Sauf qu'en 2020, le 3 mois, c'était bien beau, mais l'examen, je ne l'ai pas fait tout de suite. Ouais. Il y a eu la pandémie, fait que ça, j'ai pu commencer à peu près au mois d'août 2020, parce que l'examen, je l'ai passé comme dans le mois de juillet, dans ces eaux-là, à peu près.
Mais c'est à peu près pareil, hein? Je pense, Hugo, on a fait notre examen, je pense, à 6 mois d'intervalle. Ouais. Puis moi aussi, quand j'ai fini mon cours, je pense que c'était 6 mois de délai.
Il ne peut pas remplir les salles de classe, là.
Non, ouais, c'est ça. Il y avait beaucoup de monde. Merci de l'invitation, les gars, puis je suis content d'être là. Ouais. Merci, Mathieu. Tu sais, nous autres, comme courtier immobilier, ce qu'on aime quand on fait affaire avec des démarcheurs hypothécaires, surtout, là, c'est la rétroaction. Ben, pour ma part, tu sais, moi, je suis un gars qui donne beaucoup de rétroaction à mes clients. Et puis, Mathieu, l'invitation part du fait qu'on travaille ensemble parce que c'est ça, on aime ça, la rétroaction. Quand on lui demande de quoi, ça va assez vite, mais aussi quand on a un appel à faire, ben, le retour d'appel, la disponibilité. Ouais, puis pour les clients aussi, tu sais, je l'ai vécu dans le passé parce que maintenant, on avait des démarcheurs hypothécaires qu'on référait, puis les clients, après ça, nous disaient refaire les plus. Tu sais, on l'appelait, ils nous en revenaient pas, on attendait, c'était long. Fait que ça, c'est important parce que nous autres, comme courtier, quand tu es un type de courtier qui donne une rétroaction rapide, si tu réfères quelqu'un qui n'a pas la même rétraction, les gens sont déçus parce qu'ils se disent, ben, tu sais, Caroline, c'est pas la même chose.
Mais je te dirais, ça vient de mon boss chez CBC à l'époque, en 2017, il m'a dit, la journée que le courtier immobilier te rappelle, c'est qu'il y a un problème.
Okay.
Il dit, la clé du succès, c'est le suivi. Puis ça, je pense, ouais, c'est resté tout le temps ancré ici. Puis, tu sais, je pense que j'essaie de le faire le plus possible. Dans les meilleurs délais possibles. Puis, tu sais, te donner une idée aussi sur le dossier, parce que votre temps est précieux, le mien aussi. Fait que je pense que c'est là qu'il faut travailler en esprit de collaboration. Là.
Ouais. Ça me fait penser, Pat, le dernier épisode, à parler des suivis comme courtier immobilier. Tu sais, c'est des suivis.
Exactement. Juste un petit point, je veux qu'on démêle. On a parlé de représentant hypothécaire, démarcheur hypothécaire, courtier hypothécaire. Peux-tu nous démêler ça?
Oui, certainement. Le représentant hypothécaire, dans le fond, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il représente la banque pour laquelle il travaille. Quand je travaillais pour CBC,
ça, c'est représentant?
C'était des produits CBC, oui, exactement. Représentant ou démarcheur.
Okay.
Moi, je travaillais pour la banque CBC, fait que c'était cette offre-là que j'avais, puis j'avais pas le panier des autres prêteurs. Fait que je travaillais juste avec ce que j'avais sous la main avec le crédit CBC puis les approbations.
Avec tes propres produits.
C'est ça, les produits locaux de la banque CBC. Maintenant, la beauté de la chose, c'est que j'ai CBC comme courtier, ce que je peux faire. C'est que j'ai la banque CBC toujours dans mes prêteurs, mais j'ai Desjardins, je peux avoir Scotia, je vais avoir des prêteurs virtuels comme First National.
Mais t'es le meilleur de tous les mondes.
C'est ça, exact. Tu sais, puis tantôt, je te contais une anecdote, sans rentrer trop dans les détails, le dossier marche moins bien, à un moment donné, on peut se retourner de bord puis y aller en mode solution ailleurs. Okay. Fait que c'est la beauté de la chose, là, qu'on a une liberté comme courtier, puis c'est pour ça que j'ai fait le cours aussi en 2020. Je voulais plus être attaché juste à une banque qui, si elle dit que le dossier, mettons que le crédit ne l'aime pas, ça s'arrête là. T'sais. Moi, maintenant, si j'y crois, je suis capable de me battre un peu plus pour mes convictions. T'sais.
Puis en étant courtier, est-ce que tu travailles sous une bannière ou c'est comme à ton compte? T'sais, comment ça fonctionne de ce côté-là?
Ben, je suis rattaché à un cabinet de courtage hypothécaire. Okay. Moi, je travaille pour le groupe. Ben, je travaille. C'est le groupe Orbis auquel je suis rattaché. Puis, on a des bureaux à Québec sur le boulevard Pierre-Bertrand, 6700. Fait que ça, c'est nouveau. Ça va faire un an en juin que c'est ouvert à cette place-là. On est en train de s'implanter à Québec. Ça part de Montréal, groupe Orbis. Puis, on ouvre aussi des bureaux à Toronto. Donc, on est en pleine expansion au niveau du national aussi. Puis, ils ont une volonté forte de s'implanter dans le marché ici à Québec. Okay. Fait que ça, c'est pour ça qu'ils sont venus me recruter au mois de juillet ou passé. Puis, que j'ai fait le saut, ben, je trouvais ça le fun, l'implication qu'il y avait, les bureaux qu'il y avait ici. Tu sais, je suis allé cette semaine, tu sais, rencontrer des clients, c'est le fun. Tu sais, c'est une présence physique, là, tu sais, ce que j'avais pas avant dans mon ancien cabinet. Fait que ça m'a comme attiré. Okay. Puis il y a des belles ententes, tout ça aussi, là, qui sont à développer avec les cabinets de courtiers immobiliers. Puis c'est ça que j'aime aussi. Donc,
mais
vas-y, go.
Mais dans le fond, juste pour Orbis, là, mettons, tu sais, pour dans ce système-là, il y a Planiprêt, il y a Multiprêt. Bon, y a-tu des différences ou c'est sensiblement. Y a-tu des particularités?
Bien, je te dirais, les différences. Un cabinet de courtage versus un autre, je te dirais que ça se ressemble pas mal. Là, sauf que c'est les individus. C'est ça. Moi, je pense que c'est là que je vais faire ma différence. Puis on a quand même quelques prêteurs que d'autres banques n'ont pas ou d'autres cabinets de cabinets de courtage ont.
Okay.
J'en ai fait un récemment. Là, j'ai travaillé avec une banque qui s'appelle Strive qui entre au Québec. Ça va être super intéressant pour les gens qui veulent acheter des plex. Wow. Tout ça, je pourrais vous en reparler. Mais c'est ça. Ils ont des beaux programmes. Okay. Fait que... au niveau, tu sais, quelqu'un qui veut acheter des plex propriétaires occupants, il va avoir des belles choses à faire avec ce prêteur-là, vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est des choses qui nous démarquent. Puis notre bannière, elle essaie toujours d'aller chercher plus d'entente avec des nouvelles banques. Là, on travaille avec une autre banque qui est très connue. Là. Mm-hmm. Je ne peux pas l'annoncer tout de suite, mais on va avoir de quoi d'assez gros aussi qu'on s'en vient avoir un autre offre ou un autre prêteur dans notre panier.
Mais c'est un bon point, Hugo. Tu sais, c'est vrai que des fois, on entend Planiprêt, Multiprêt, qui sont des grosses bannières au Québec. Un client ne devrait pas avoir peur de faire affaire avec un courtier comme toi qui est chez Orbis. Comme tu dis, c'est l'individu, c'est le fit que tu vas avoir avec la personne.
C'est le fit, c'est de voir si c'est comme dans tout. Là, mais moi, je pense que. Puis, on n'est quand même pas mauvais. Là, on a au-dessus de 45 prêteurs avec lesquels la bannière a fait affaire dans la dernière année. Donc, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choix dans les solutions A. Ça veut dire des prêteurs réguliers que tout le monde connaît. Oui, exact. Comme je nommais tantôt Desjardins, Scotia, TD. On peut avoir des prêteurs B. Ça, c'est B2B. Des choses comme ça qui sont des B2B, exemple, c'est une division de la Banque Laurentienne. Ça, ah. On l'a, tu sais, okay. Puis équitable. Fait que ça, on est capable d'avoir ces solutions-là, puis on a des prêteurs privés. Donc, chez Orbis, là-dessus, on est quand même assez diversifié dans notre offre aussi à ce niveau-là. Là.
C'est comme dans le courtage immobilier. Souvent, le monde nous demande de quelle bannière, tu sais. Royal Lepage, en réalité, c'est comme si Remax, le Via Capital. Nous autres, on le dit comme tu le dis, on le ramène tout le temps, c'est l'individu avec qui tu vas travailler.
Ben, c'est ça.
Tu sais, à un moment donné,
c'est ça. Moi, c'est mon service à moi que je vends. T'sais, Orbis, c'est beau. Puis, tu sais, je suis content que la bannière veuille rayonner, mais en même temps, si moi, je fais pas
la job.
Je fais pas la job, ben, ça a beau rayonner. C'est ça. Fait que je pense que le service est très important.
Et puis vice-versa, nous, on s'affilie à une bannière parce qu'on a confiance à cette bannière-là.
C'est aussi, ça aussi. Ouais. Exact. Ouais. T'as raison. C'est
un bon point. Moi, j'ai une question pour vous, les gars. Quand vous avez un client qui est acheteur ou vendeur, peu importe, puis il a besoin d'un courtier, est-ce que souvent il arrive avec son courtier hypothécaire ou vous référez? C'est... Comment ça fonctionne
vos clients? Souvent, ça va être dans les premières discussions avec mon client. Ça va être le premier pas qu'on va faire. C'est que je vais poser la question s'il y a une préautorisation, s'il y a un courtier hypothécaire. Je te dirais que ça peut être 50% des cas qu'il va en avoir un. L'autre 50% des cas, je vais le référer à Mathieu ou à un autre, dépendant de la situation.
Ouais. Okay. Moi, j'aime bien ça, les aligner. Souvent, quand les gens ne sont pas trop, s'ils me disent « êtes-vous ouvert », je lui demande « êtes-vous ouvert à un autre produit ?» Puis là, je les enligne vers un démarcheur. Puis je le vends surtout pour toute la gamme de produits. Tu sais, comme, mettons, moi, je suis un ancien de la fonction publique. Bien, Banque nationale, ils ont des meilleurs taux avec la fonction publique. Bien là, Mathieu va pouvoir leur en parler, tu sais. Mais en même temps, ce que je lui dis, c'est la rétroaction. Je vais le ramener encore à ça, mais dans des conditions de promesse d'achat en offre multiple, moi, c'est encore là, c'est un de mes trucs, là, mais c'est pas grave de le donner. mon truc de pêche. C'est celui de la capsule. J'aime bien ça quand je présente. Bien, des fois, si on est le week-end, exemple, on a visité le samedi, les présentations sont le dimanche. Mais là, si c'est Mathieu qui est dans le dossier, je l'appelle. « Hey Mathieu, es-tu capable de me faire une lettre à jour de mon autre client pour sa qualification bancaire? » Puis là, je le présente. Donc, quand je présente mes conditions, ben là, tabarnouche, je suis capable d'arriver et de dire au vendeur, « Ben moi, là, on a accès à notre démarcheur hypothécaire la fin de semaine. » Il nous a sorti une lettre, on est à jour dans le dossier financier. Fait qu'au niveau financier, là, inquiétez-vous pas, ça va super bien d'aller, tu sais, parce qu'on a de la rétroaction rapide. Fait que je le vends à ce niveau-là, tu sais.
Puis si je comprends bien, je pense que la précale, c'est une des premières étapes pour l'achat d'une maison. Comment ça fonctionne?
J'aimerais ça qu'on finisse avant de parler du parcours à Mathieu.
Ouais.
On reviendra sur la précale après. Ben ouais. Je veux savoir, tu sais, comme courtier hypothécaire, tu as commencé en 2020.
Ouais.
Comment que ça a été tes premières années là-dedans? Je sais que ça n'a pas très longtemps, mais comment que tu commences, comment qu'on débute comme courtier hypothécaire? On se dirige vers quoi? On fait quoi?
Ben, écoute, bonne question. Moi, je te dirais que... étant donné que j'avais de l'expérience avant comme représentant pour la banque, je ne me serais peut-être pas lancé là-dedans sans avoir fait ce que j'avais fait avant. Un, je pense que les années d'expérience en succursale, les années d'expérience comme représentant aussi pour la banque CIBC m'ont amené à avoir une certaine confiance de le faire. J'avais déjà un réseau, je connaissais déjà du monde.
Fait que ça tantôt, tu as parlé de marketing, tu allais rejoindre un peu ton oncle là-dedans, mais... Il faut que tu fasses ta base de clients.
Oui, mais c'est ça, je l'avais commencé, je travaillais en 2017 quand j'étais arrivé chez CIBC. Il a fallu que je prenne ma place là-dedans puis me faire connaître auprès du milieu, tu sais, des courtiers immobiliers, de vos collègues et tout ça. Fait que ça, moi, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus quand j'ai commencé en 2017. J'ai été cogné à la porte. Tu sais, ceux-là qui voulaient me voir, tant mieux. Ceux-là que ça le tentait moins, c'est correct aussi. Mais tu sais, mais j'ai eu un bon taux de réponse.
C'est quoi ta part de marché auprès de courtiers immobiliers comme...
Je te dirais que moi, le gros de ma business, c'est pas mal 90% que je travaille en achat. Fait que tu sais, les dossiers d'achat, moi, ça me fait pas peur, j'aime ça. Là. Fait que tu sais, j'y comprends, puis je comprends l'enjeu des délais. Fait que c'est ça aussi qui... Tu sais, ça, c'est important d'avoir ça en tête tout le temps. Que tu sais, s'il y a un 14 jours, il faut essayer de rentrer dedans le plus possible. Tu sais, des extensions, même moi, j'aime pas ça en demander. Fait que... Mais tu sais, moi, c'est mon réseau de contacts, je l'avais bâti avant de me lancer là-dedans. Là. Tu sais, je me suis pas lancé les pieds dans le vide là-dedans en 2020. J'avais déjà une certaine expérience, fait que j'étais quand même relativement confiant d'être capable d'aller récupérer certaines de ces relations-là quand j'ai recommencé en courtage.
Cool. Puis y a-tu des années qui ont été plus difficiles? Est-ce que tu t'es déjà remis en question?
Bien, je te dirais que l'année passée, quand la hausse des taux est arrivée, c'était, je pense, une des pires années que j'ai vues.
Okay.
En termes de dossier, on en a fait, on a travaillé, mais tu sais, c'était pas occupé. À un moment donné, tu sais, les gens, je pense, qui étaient patients, ils voulaient voir qu'est-ce qui allait arriver au niveau des taux d'intérêt. Ils pensaient peut-être qu'il allait avoir des baisses plus rapides que... Là, il n'y en a pas de baisse. Ça a baissé quand même un peu, mais on s'attendait peut-être à avoir un niveau un peu plus bas. Les gens, je pense qu'ils ont mis ça sur haut l'année passée. Cette année, le marché est plus actif. Je pense que là, la réalité, c'est que les gens comprennent que c'est ça les taux. S'ils veulent embarquer dans le marché, on est rendu là, là. Fait que ça, je le sens en plus. Puis je me fais moins questionner ou challenger là-dessus parce que là, les gens, je pense que ça fait un an que c'est comme ça. Ils sont plus habitués à travailler avec ces paramètres-là. Là.
Mm-hmm. Cool. Fait que, ben, on peut revenir au premier pas qu'on parlait tantôt, la préautorisation. Tu te bases sur quoi pour faire une préautorisation? Puis tu leur vois, tu as besoin de quoi? Si un client veut qu'il arrive le plus préparé possible, tu lui demandes quoi?
Ben, moi, la première des choses que je fais, c'est que j'ai un petit formulaire que je dis. Là, on a un formulaire en ligne que j'ai à ma disposition chez Orbis. J'envoie les gens remplir ça. La première affaire, c'est que quand ils remplissent ça, là, ça me donne déjà une idée pas mal du topo. Ils vont me mettre leur, ben, je vais avoir le nom, la date de naissance, mais je vais avoir leur emploi, puis je vais avoir aussi la mise de fonds, le cash qu'ils ont un petit peu pour le projet. Puis ça me donne aussi l'autorisation de sortir le bureau de crédit tout de suite. Moi, ça, déjà là, quand je vois le crédit, je sais que si le crédit tient la route, que je vois les revenus, que ça correspond à peu près à ce que je connais. Tu sais, on connaît les corps de métier, on sait à peu près c'est quoi les revenus dans
ouais.
Fait que tu sais, on se fait une tête, on voit que ça vaut la peine, tu sais, puis on sait qu'on est capable d'avancer à partir de là. Là, on va demander des documents plus précis. Puis moi, dans une précale, je trouve ça bien, bien, bien important de demander les documents. Parce qu'on peut faire une précale. On a des outils qu'on pourrait sortir une précale en 5 minutes, puis qu'on n'a rien vu pendant tout, puis je trouve que ça vaut rien, ça. J'aime pas faire ça. Je trouve que mon travail, il n'est pas bien fait si je fais ça.
Mais ça, j'en ai déjà vu avec des tableaux Excel, qui rentrent ton revenu, carte de crédit, tout ça, puis là, précale pour ça. Mais tu sais, c'est
dur à dire.
Mais tu sais, puis moi, je l'ai vécu, là, c'est capital ce que tu expliques. J'avais un client avec qui que j'ai travaillé, fait un offre d'achat, il avait une préqualification bancaire d'une grosse institution, là, tu sais. Fait que c'était pas une affaire sur le coin de la table. Et puis finalement, le financement, il sortait pas. Ben, il m'arrive au bout du délai, ben finalement, ça passe pas au financement. T'sais, genre, on fait une promesse d'achat à 280 000, puis sa précale était jusqu'à 350. Fait que là, j'appelle le gars d'hypothèque qui avait fait la fameuse lettre parce que je l'avais son numéro. Là, il se met à bégayer, puis il me dit, tu sais, on l'a sorti vite un peu, on n'a pas sorti le bureau de crédit. Fait que moi, c'était dans mes débuts. Fait que là, j'ai dit, voyons donc, oui. Fait qu'après ça, à chaque fois que j'avais une lettre d'un client, ben j'appelais le courtier hypothécaire. Je disais, écoute, tu sais, là, je me suis mis à challenger ça. Là, je me suis fait recevoir aussi une couple de fois.
mais c'est
là, il me disait, hey, tu viendras pas me dire comment faire ma job. Mais en réalité, nous autres, tu sais, 14 jours de délai, les émotions des vendeurs, des acheteurs, tout ça,
au travers
de
ça,
là, ouais, ça je veux dire, ça pour que ça tombe, quand tu as une précale à 350 pour une offre d'achat à 280.
Puis c'est bon combien de temps, ça, une précale?
Ben, c'est du gros bon sens. Là. Si j'en fais une aujourd'hui, puis que dans 6 mois, vous l'utilisez encore, peut-être que ce serait bon qu'on s'en reparle, que j'en fasse une, ou je le remette à jour un peu, comme tu dis.
Quand il y a un changement de taux, c'est important de le
faire. Changement de taux, oui. Mais tu sais, des fois, ça, écoute, on peut le faire par téléphone. Tu m'appelles, tu dis, écoute, Mathieu, avec les taux qui ont bougé, est-ce que c'est encore bon? Tu sais, je le valide assez vite, mais tu sais, habituellement, je me donne un jeu aussi. Je prends pas le taux le plus bas pour qualifier mon dossier. Je prends pas le plus haut non plus, mais je prends un taux moyen, moi. Souvent sur le taux 5 ans, qui donne un avantage au client. Mais tu sais, je joue là-dessus, mais je prends un taux moyen plutôt que d'aller tout le temps sur le taux le plus bas parce que ça, si ça remonte, on est fait. Fait que t'es toujours mieux de garder un gap ou un petit buffer, comme on dit, là. Mais ça, je le fais comme ça, puis je te dirais que ça va relativement bien. Puis on évite énormément de perte de temps, moi, comme pour le courtier immobilier avec qui je travaille. Là. C'est ça le but aussi de la chose.
J'aimerais ça qu'on revienne un peu sur les documents. C'est quoi? C'est des T4? C'est des...
Ben, ça dépend tout le temps. Écoute, c'est une bonne question. Si on est salarié, ça va être relativement simple. Tu sais, un salarié, T4, habituellement, on va prendre 2 années de T4, un talon de paie récent, puis on peut peut-être... Il y a des prêteurs qui aiment beaucoup avoir des lettres de confirmation d'emploi. Fait que si on demande ça, puis je dirais qu'à partir de là, on est pas mal correct. On a besoin aussi des preuves de la mise de fonds, évidemment, parce que ça, c'est un pilier de la transaction. Puis,
c'est ça. La mise de fonds?
Oui, la mise de fonds. Il y a toujours 3 éléments très primordiaux. L'emploi du client, le bureau de crédit que je sors d'entrée de jeu. Fait que ça, on le sait, c'est le crédit tient la route. Puis, la mise de fonds, c'est le cash que la personne a.
Okay,
parce que si tu te qualifies pour, exemple, 500 000, mais que tu as... peut-être, je sais pas, au moins 10 000 $ de mise de fonds, il va peut-être t'en manquer un peu pour le 500. Fait que, tu sais, tu qualifies pour le montant, mais tu n'as pas le cash pour faire la transaction. Fait que c'est ça, là, l'élément qui est important là-dedans. Fait qu'il faut regarder tout ça avec les paramètres que les clients ont. Mais ça, la mise de fonds, ça. Fait qu'on demande des relevés bancaires pour ça ou des relevés de placement de 3 mois. C'est au moins 90 jours de démontrer que l'accumulation s'est faite de manière normale. Puis, tu sais.
Économie, mais ça. Ouais.
C'est ça, exactement.
Pour un travailleur autonome, il y a juste un peu le même principe. C'est des.
Travailleur autonome, ça en demande un petit peu plus.
Sur 2 ans,
C'est 2 ans de rapport d'impôt, 2 ans d'avis de cotisation. Preuve que les impôts sont à jour, ça c'est bien important. Fait que ça veut dire que s'il y a une dette d'impôt, il faut qu'elle soit démontrée à zéro, parce que sinon le prêteur n'embarquera pas. Puis pour le reste, ça dépend. Si c'est une entreprise incorporée, on peut demander aussi des états financiers des deux dernières années. Fait que souvent, le dernier état financier va faire état justement des deux ans. Fait qu'on est correct avec ça. T'sais, ça peut, ça va être ça. Pour le reste, la mise de fonds, tout le reste, c'est la même affaire qu'on va demander.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui veulent sauver de l'impôt, mais en même temps, si tu veux emprunter pour une maison, il faut que tu déclares quand même des revenus. Fait que c'est tout le temps à savoir un peu le jeu là-dedans, il est où, puis c'est par quoi contre, tes objectifs, j'imagine.
Oui, bien ça, c'est sûr que c'est plus facile quand tu as des revenus. Tu rentres dans un cas, c'est facile, tu prends une moyenne de 2 ans, puis ça va bien. Par contre, il y a des programmes, justement, dans des situations comme ça, où le travailleur autonome ne se déclare pas beaucoup de revenus, mais tu sais, on le sait qu'il fait de l'argent, puis il en a de l'argent.
Ouais.
Ben, ça, on est capable de jouer sur des programmes avec avoir. J'en fais un actuellement, un dossier, c'est, ça s'appelle Avoir Net Élevé. Les gens, ils ont beaucoup d'argent, mais peu de revenus déclarés. Mais tu sais, on est capable de faire de quoi pareil. Tu vas aller jouer sur l'actif que le client a plutôt que sur ses revenus. Fait que ça, c'est des choses qu'on est capable de venir mettre de l'avant. Ou il y a des programmes qu'on appelle verbalisés aussi, que là, l'entrepreneur va mettre 10% de mise de fonds. Mais là, on va prendre, mettons, on va regarder le chiffre d'affaires qui est déclaré, puis on va voir avec les dépenses. Je donne un exemple. Mettons qu'il fait un chiffre d'affaires de 100 000, mais qu'il se déclare 20 000 avec les dépenses après. Mais j'ai besoin de 60 000 pour qualifier, mais que ça fait du sens, je suis capable d'aller le mettre, mon 60 000, okay. Puis de le présenter avec une assurance hypothécaire. Ça, c'est Sagen qui fait ça. Puis on est capable de passer les dossiers comme ça aussi.
Ouais, vas-y, go.
Bien, sous ce volet-là ou l'autre d'avant, en tout cas, je réfléchis ça au fait, on parlait du bureau de crédit. Qu'est-ce qu'on voit dans le bureau de crédit? Vous autres, quand on dit on sort le bureau de crédit, vous voyez quoi? Le gars, il y en a accordé, les cartes de crédit sont loadées.
Ben, c'est ça. On veut voir. Ben, ce qu'on veut voir beaucoup là-dedans, il y a le pointage de crédit qui est minimal qu'on veut voir. Ça, c'est la première des choses qu'on regarde. Est-ce qu'on rencontre les critères minimales, les critères minimums que le prêteur ou que les assureurs veulent? Le critère minimum pour être un prêt conventionnel avec un assureur, c'est au moins une cote de 600.
OK.
Faut que ce soit en montant. Si on n'a pas ça, à ce moment-là, on sait tout de suite qu'on s'en va en alternatif. On sait qu'on s'en va en prêteur B ou en prêteur privé.
Il reste des solutions pour en bas de
600. Il y en a pareil, des solutions. Mais tu sais, ça prend plus de mise de fonds, c'est plus contraignant, c'est plus difficile.
Il faut avoir un délai de temps peut-être aussi.
Fait que c'est un peu plus long, puis il y a des prêteurs privés aussi qu'on peut regarder. Mais ça, c'est des mises de fonds souvent de 25 à 30 peut-être même 35 % de mise de fonds. Fait que ça, c'est pas à la portée de tout le monde d'aller là dans ces dossiers-là.
Je sais pas si. Je sais pas si tu peux me répondre, Mathieu. Mettons, moi, je veux savoir ma cote de crédit. Des fois, je vais sur Desjardins, je lis. C'est-tu quand même fiable? C'est quoi? Mettons, je veux savoir ma cote, ce serait quoi l'idéal pour ça?
Ça donne une bonne idée, mais c'est parce que le problème qu'il y a souvent, c'est que ça va être une cote Equifax qui donne. Puis les banques, on travaille avec le Beacon Score. Okay? Fait que ça, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens me disent hey, j'ai une super belle cote sur mon application.
Ben oui, hein.
Puis moi, j'arrive, des fois, j'ai 100 points de moins parce qu'on ne travaille pas avec la même affaire. Tu sais, une demande réelle, là je pourrais te le dire facilement.
Dans le fond, si la personne elle a 2-3 cartes de crédit qui sont pleines, t'es voué là. Tu sais, elle ne peut pas t'en poser une.
Non, c'est ça. On les voit là. On travaille, par contre, avec ce qu'on voit. Moi, je travaille toujours avec ce qui est donné dans le bureau de crédit. Fait qu'on part de ça. Puis selon les prêteurs, selon la dette qui est sur la carte de crédit, ils vont calculer un certain pourcentage pour venir mettre un paiement. Fait que ce paiement-là, lui, vient m'enlever de la disponibilité pour faire mon emprunt ou mon achat. Fait que c'est pour ça que c'est important de le sortir du bureau de crédit puis d'avoir la situation réelle, parce que je vois vraiment les dettes ou les prêts que la personne a. Fait que...
Là, t'as parlé d'emprunt ou achat, fait que je comprends que sûrement t'as beaucoup d'achats de propriété, j'imagine, mais t'as aussi des emprunts pour peu importe... C'est quoi? Ou...
Bien, on peut faire des refinancements. Oui, des gens, mettons, pour des projets de rénovation, des projets de consolidation de dette, c'est sûr qu'on peut avoir du refinancement qu'on va faire aussi. On parlait d'achat, mais dans le refinancement, c'est les mêmes critères qu'on va regarder. Okay. Sauf que là, il n'y a pas de promesse d'achat puis des documents comme ça. Tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est le relevé hypothécaire de la banque qui a le prêt actuellement, puis les comptes de taxes, puis ces choses-là. Puis à partir de là, on demande les mêmes documents pour le revenu, puis ces choses-là. Okay. Mais oui, on peut faire du refinancement, puis on peut, tu sais, pour aider, là, dans les fois, ou des projets, ou quelque chose. Peu importe. On est capable de faire ça aussi. Là. Ça, il n'y a pas de problème.
T'en as glissé un mot, je pense, tantôt, mais un prêt assuré, est-ce que tu pourrais en parler un peu?
Mais c'est moi, une des questions que j'ai le plus souvent dans mes transactions que mes clients achètent me demandent.
Oui.
C'est quoi la différence à mettre 5, 10, 15, 20 % ou plus de 20 % c'est quoi? Ouais. Comment qu'on veut mettre ça?
Bien, un, plus qu'on met une mise de fonds. Mettons qu'on donne 5 % c'est qu'il y a une... OK, dans le fond, là, pour essayer de faire ça...
Le minimum, c'est 5.
C'est 5. C'est que Pourquoi on va utiliser un assureur hypothécaire de base? C'est qu'on n'aura probablement pas le 20% minimal que la banque va exiger. C'est là le rôle de l'assureur d'embarquer dans la transaction. Si les gens ont du 5, 10, 15%, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils passent par l'assureur hypothécaire, sinon ils n'ont pas de transaction. Parce que pour faire une transaction hypothécaire normale, là, conventionnelle, c'est 20% de cash et plus. Okay.
Que la banque, elle, la finance
c'est,
80%.
C'est un mal nécessaire, comme je dis des fois aux gens. Tu n'as pas le choix. Là, mais en même temps, les premiers acheteurs, là, c'est 99% du monde vont y aller avec ça. Là, puis c'est correct.
C'est ce
là.
Qu'on voit aussi, je pense, dans le marché avec nos clients acheteurs.
Ben, c'est ça. Puis la vulgarisation, moi, je pourrais dire, du prêt assuré, la SCHL, Sagen, sont là pour venir aussi... endosser un risque. Là. Tu peux nous en parler de ça, l'avantage de passer par un prêt assuré?
Le prêt assuré, ouais, l'avantage, là, je dirais, c'est justement, tu viens de le dire, ça assure le risque pour le prêteur ou le créancier. Fait que, qu'est-ce qui arrive? C'est que le taux d'intérêt, souvent, puis c'est pour ça qu'il y a une différence entre le taux assuré et le taux conventionnel.
Ouais, ouais.
Parce que la créance de la banque ou de la caisse, ou peu importe qui fait le prêt, est assurée. Fait que si la personne vient être en défaut de paiement, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'assureur va être là pour protéger le créancier. Fait que souvent, ils vont venir donner une petite prime de taux d'intérêt, c'est-à-dire un rabais, parce que la créance est assurée. Tandis que conventionnel, c'est un peu plus cher parce que l'institution financière prend tout le risque. Donc, c'est un peu ça. C'est toujours une question de risque qui est vue là-dedans. Là.
Est-ce que des fois, un client qui veut mettre 20% ou 15%, est-ce que tu peux lui référer ou le conseiller de mettre 5 puis d'investir le reste? Fais-tu des conseils financiers?
Ouais, ben, conseil financier, ben écoute, quand ça parle de touche l'hypothèque, je vais le calculer. Comme l'autre jour, j'ai fait un exercice avec une cliente. Tu sais, des fois, vu le taux d'intérêt qui est plus bas, des fois, de donner 15 % versus donner 20, même si tu payes une prime d'assurance hypothécaire, ça valait peut-être la peine de faire l'exercice. Dans son cas, elle, finalement, ça valait plus la peine de donner son 20 % que d'aller prendre la prime.
Okay.
Il y a des fois que j'ai déjà vu que quelqu'un qui donnait 15 % sauvait quand même de l'argent, puis c'était plus intéressant de payer la prime que de
payer le 20 %
que de payer le 20 % de se garder ces liquidités-là, finalement. Fait que oui, ça c'est j'ai déjà vu les deux là, dans ces années-là que je fais ça. Là.
Parce que moi, dernièrement, j'ai appris une chose qui était intéressante puis que je ne comprenais pas le concept. Mais tu sais, dans le fond, 80 % tu n'as pas besoin de ces prêts assurés-là. Mm-hmm. Mais là, il y a des gens qui utilisaient le prêt assuré puis donnaient 19 % juste pour 1 % pour aller chercher l'assurance, en réalité, puis une dépourvenir, rassurer la banque. Fait que pourquoi ils font ça pour un meilleur taux d'intérêt, comme tu disais? Y a-t-il d'autres questions?
Bien, je te dirais aussi, pour la rapidité d'exécution, souvent, c'est que quand l'assureur hypothécaire va accepter le dossier, la banque ou la caisse n'ira pas demander une évaluation. Si l'assureur reconnaît la valeur,
tu
sauves une étape souvent qui va prendre du temps, puis que c'est là que ça peut être intéressant de faire ça aussi. Tu sais, si on est dans un délai serré, on est peut-être mieux de faire assurer le prêt, quitte à peut-être l'enlever l'assurance par la suite si la personne veut vraiment donner le 20%, mais là, on a plus de temps, bon, on peut souffler un peu plus.
Mais... juste de même pour comprendre, si on parle d'une prime d'assurance, quelqu'un qui donne sur 100 000, okay, il va dire, ben moi, je vais la prendre, la SHL à 19 %, ça peut coûter comment, ça?
Ben, c'est à palier. C'est ça que je voulais dire tantôt, puis j'ai comme bifurqué sur d'autres choses, mais la prime d'assurance, c'est à palier. Quand on donne 5 % de 5 à 9,99, ça coûte 4 % ça coûte 4 % de la valeur du prêt.
OK.
Après la mise de fonds. Donc, on calcule 4 % de cette valeur-là.
Peu importe le montant d'achat?
Peu importe le montant d'achat.
Okay.
C'est 4 % Si on va sur du 10 à 14,99, donc là, on tombe à 3,1 % Donc, on baisse de 0,9. Puis, si on va de 15 à 19,99, on tombe à du 2,8 % de prime. Donc, on passe de 4 à 2,8. Puis, si on donne 20 et on fait assurer le prêt,
intéressant,
là, on est à 0,6 de mémoire. Mais ça, j'en vois pas souvent. Là, je veux pas dire n'importe quoi. Il faudrait que je le revalide.
Fait que ça va être là que la différence que tu vas vouloir mettre 5 ou 15 %, ça va être dépendant de ta prime.
Parce que ta prime, elle va te coûter moins cher, dépendamment. Puis, tu sais, plus que tu en donnes, moins que l'assureur va te charger.
OK.
Fait que c'est ça. Là, c'est à une échelle, là, finalement. C'est décroissant.
Puis aussi, sur ton premier 500 000, y a-tu 5 % puis en haut de ça?
C'est du 10. C'est une bonne question, c'est ça. C'est que sur le premier 500 000, on donne 5 % de mise de fonds. Puis sur l'excédent, donc, ça serait du 10 % qu'on irait jouer. Ce qui fait à peu près une mise de fonds moyenne. Mettons qu'on joue dans des prêts comme ça, c'est à peu près 7, 7,5 % de mise de fonds que ça représente. Si tu prends le premier 5, avec le 10. Là. Fait que c'est à peu près ça que ça fait. Là.
OK. Ah, mais c'est impressionnant, ça paraît que tu connais tes affaires.
Ah ouais, ça y va. C'est clair, ouais, j'aime ça.
J'imagine qu'au début, ça doit être un peu un casse-tête à tout comprendre, puis où ça vient vite.
Ouais, je peux te parler de mes débuts à Caisse de Cap Rouge, justement. Je me sentais, j'aurais voulu m'asseoir en arrière de la plante qui est juste là dans le décor. Non, écoute.
Ah, c'est sûr.
C'est parce que le crédit, c'est ça, comme je vous disais à la base dans le parcours, c'est que j'ai étudié en planification financière. Fait qu'à l'école, tout ça, ce qui nous montre, c'est les stratégies de placement, les stratégies d'investissement. Comment on investit, comment on diversifie un portefeuille, c'est quoi les stratégies là-dedans. Mais, tu sais, ils appellent ça planification financière pour donner le conseiller en finances personnelles chez Desjardins. Mais le bout de crédit, il n'en parle pas pantoute, puis il est assez important. Ça, tu l'apprends vraiment sur, excusez l'expression, mais sur le tas. Ouais, on l'apprend en le faisant, puis tu sais, ben, plus que les années passent, mais c'est là qu'on apprend.
J'ai l'impression qu'à chaque semaine ou à chaque mois, on dirait que tu en poses des dossiers. Là, tu dois l'apprendre vite pareil. Là.
Oui, bien... Mais moi, j'ai appris beaucoup plus en 2017 quand je me suis lancé vraiment à faire ça à temps plein. Un, j'avais déjà des connaissances, fait que ça m'a aidé, mais je me suis aperçu que j'en avais encore à apprendre. Fait que là, tu sais, de faire ça à temps plein, parce que le problème qu'il y a souvent quand on est en succursale, puis tu sais, ça a été une super belle école, mais on fait tout, comme je vous disais tantôt, on fait toutes les crédits. On rouvre les comptes, on fait les hypothèques, on fait du placement, on fait des stratégies de retraite.
Et tu peux plus creuser dans l'hypothèque.
Ouais, c'est ça. C'est que là, j'ai le temps à mettre à 100% là-dedans. Fait que c'est là, justement, qu'on est capable de donner du service de la rétroaction. Parce que quand on fait tout, à un moment donné, on ne peut pas être bon dans tout en même temps.
Puis les dossiers doivent tellement être presque tous différents que tu ne peux pas t'ennuyer à tout à fait. C'est pas tout à la même.
Non, c'est ça. Bien, chaque dossier a ses caractéristiques, ses choses. Fait que, tu sais, puis chacun a son histoire. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime aussi. Tu sais, t'embarques dans l'histoire du dossier, t'embarques dans l'histoire des gens, puis tu sais, t'es là pour les aider. Là. Mm. Puis, on est en mode... Tu sais, je suis vraiment en mode solution tout le temps.
Moi, j'allais dire ça. Moi, c'est vraiment ce que j'ai aimé de ton service. C'était en mode solution. J'ai déjà vu des transactions qu'on a faites ensemble, que les clients, peut-être qu'il y avait des choses qui ont accroché ou que ça ne fonctionnait pas, mais tu leur apportais des pistes de solution pour un moyen long terme pour pouvoir faire une transaction peut-être l'année prochaine, peut-être dans 6 mois. Fait que ça, j'avais vraiment aimé ça, que tu prends le client et tu vas l'épauler pour... avoir son rêve d'avoir une maison.
Bien, c'est écoute, ça fait partie de la job. Puis c'est pas parce qu'on le fait pas aujourd'hui le dossier qu'on pourra pas le faire plus tard, puis que les gens ne seront pas capables d'acheter la maison. C'est ça aussi là, l'idée. Puis ça, je m'entoure aussi de partenaires là-dessus. Exemple, si les gens n'ont pas le 20 ou le 25% d'un prêteur alternatif, il y a des firmes avec qui je travaille, moi ici à Québec, qui sont là pour faire du rétablissement de bureau de crédit. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, mais tu sais, on va les amener vers là. S'ils veulent acheter la maison, puis ils sont sérieux, là, les gens, mais ils vont y aller, puis ils vont la prendre. Puis ça donne des beaux résultats, ça marche, là. C'est pas parce que tu fais pas de quoi aujourd'hui que tu le feras pas demain. Fait que, tu sais, puis les gens, ça, quand ils sont sérieux, puis ils vont là, il y a des beaux résultats qui sortent de là aussi. Là.
Il y a... dans le fond, j'avais une mise en situation que je me posais la question. Tu sais, des fois, depuis un an, on voit que la vente de condos, elle a explosé. Tu sais, fait que là, il y en a moins d'inventaire, les prix ont monté, parce que, dans le fond, il y a pas de logement. Fait que les loyers ont monté beaucoup. Donc là, maintenant, je me dis, y a-tu des gens qui t'appellent pour te poser la question, écoute, mon loyer est rendu à 1500, au lieu de louer à 1500, j'aimerais mieux m'acheter un condo. Je peux acheter quoi, moi, avec 1500 par mois, tu sais? Comme condo, ça...
Ben, écoute, on regarde, oui, j'ai des appels là-dessus beaucoup. Oui, parce que le prix des loyers a explosé. Hein. Puis la mode du condo locatif n'a pas fini. Puis ça, quand ils mettent le mot condo puis locatif, on sait que les prix, ça explose. Fait que ça n'a pas fini, là, l'explosion de ces prix-là. Fait que oui, il y a des gens, beaucoup, là, je te dirais, que ils commencent à trouver ça sale, puis ils s'aperçoivent que peut-être qu'avec une hypothèque, ça leur coûterait un peu moins cher, même si les taux sont un peu plus chers qu'ils l'étaient. Ça peut leur revenir un peu moins cher, ou ça va leur revenir peut-être au même prix.
Ça peut leur revenir moins cher, ça me surprend.
Mais ça peut revenir peut-être moins cher, ou peut-être au même prix.
OK.
Mais écoute, ça va être l'équité, c'est un actif. Oui. Dans le fond, là, ils diversifient un peu leurs affaires. Puis, tu sais, j'ai eu un cas justement comme ça cette semaine, puis c'est ça que j'ai expliqué. Là, j'ai dit, c'est le même prix que vous payez là, mais vous allez creuser de l'équité dans 5 ans. Ça va avoir pris de la valeur, puis vous allez avoir payé aussi. Là, fait que, tu sais... C'est pas un mauvais investissement en soi.
Le dernier épisode, Patricia elle avait parlé d'un investissement comme un peu imposé, pas imposé, mais tu sais, ça te force à placer de l'argent, à avoir une propriété. Là, tu fais tes paiements. Tu fais tes paiements. Puis
mais c'est ça l'argent, perdu. C'est ça. Tu sais, ça prend en moyenne dans les dernières années. On parlait des condos parce qu'on parlait de condos, ça a pris 12% de février 2023 à 2024. C'est 12% de bel argent que quand tu vas vendre, tu ne paieras pas d'impôt dessus. Là, Puis, ben, ça m'amène à un autre sujet. Ça veut dire, en moyenne, ça a pris à peu près 30% là, dans les dernières années à Québec. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent t'appeler et te dire, après 5 ans, là, j'ai une équité de 100, 150 000. On entend beaucoup parler, c'est ainsi, de clubs investisseurs. Puis tu sais, quand tu as 100, 100, 150 000 d'équité sur une propriété, mm-hmm. que ce soit ta propriété ouais. ou un immeuble à revenus, il y en a-tu qui te demande des stratégies? Est-ce que je devrais investir dans un loyer du locatif avec mon équité? Ça se fait-tu ouais, d'abord?
Ben, oui, oui, ça se fait. Écoute, il y a plusieurs manières de le faire. Si on travaille, exemple, avec... si le prêt, mettons, chez Desjardins, je vous donne un exemple, là. Eux autres, c'est parce que c'est les seuls qui offrent ça. Fait que c'est pour okay. ça que je le nomme vraiment spécifiquement. Mais s'il y a une équité beaucoup sur la bâtisse, qu'on est capable d'aller la chercher, eux proposent de faire des collatérales. Fait qu'on peut prendre l'équité gagnée, enregistrer un droit chez Desjardins, puis okay. aller faire une mise de fonds avec ça pour acheter d'autres choses. Ça, c'est une stratégie Desjardins. Les okay. banques, toutes les autres banques, là, je ne les nommerai pas toutes, mais les autres, ils ne font pas ça. Okay? Okay. Il n'y a pas personne qui fait ça à part Desjardins.
Quand même touché, juste que le monde comprenne bien, là, ouais, collatéral, ouais, c'est comme tu dis, tu vas prendre l'équité sur une propriété ouais. comme mise de fonds sur une autre propriété.
C'est ça, exactement. Le
refinancement, c'est ça? Non, c'est vrai, tu vas pas refinancer, je pense.
Non, c'est un droit immobilier. C'est un droit hypothécaire. Ils vont aller s'accrocher, si on peut dire. Je peux prendre l'expression. Ils vont aller chercher, mettons, je sais pas, mettons qu'ils veulent, on a besoin de 30 000 ou 50 000 pour la ouais. mise de fonds. Ils vont aller chercher 50 000 de l'équité que tu as gagnée sur la propriété. OK, pour aller faire ta mise de fonds. Ça, c'est une stratégie Desjardins.
Ils ne vont pas aller, le chercher, ils vont juste se mettre un droit dessus. Ouais.
C'est ça. Ouais. Sauf que qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est là que c'est un piège, puis ça, il faut l'expliquer aux clients, aux gens. C'est que si tu revends ta propriété où tu as gagné ton 50 000 d'équité, tu le dois à Desjardins. Ce n'est pas de l'argent ouais. qui est dans les airs. Là. Fait que ouais. Si tu étais rendu, mettons, tu avais une propriété de 200 000 dans ton exemple, puis qu'on est rendu à 100 000 à la fin, mettons, dans 5 ans, parce qu'on a payé, on a fait des remboursements. Puis que tu as repris un 50 000 comme ça, mais c'est pas 100 000 que tu dois 150 000. Fait que ça, il faut l'expliquer parce que c'est un droit, mais c'est un droit qui est comme dans les airs un peu qu'on voit pas, mais c'est de l'argent qui est quand même là. Là. Mm-hmm. Fait que tu dois plus 100 000, tu dois 150 000 sur ta propriété. Mais ça peut permettre de faire des transactions. C'est pas mauvais, mais c'est juste de comprendre à quoi tu t'embarques quand tu fais ouais. ça.
OK.
Fait que, puis sinon, moi, ce qu'on fait beaucoup, ce que j'aime bien, puis ça, c'est plus, tu sais, t'es moins attaché, puis tu sais un peu plus où tu t'en vas. On peut aussi faire des marges de crédit hypothécaire. Après un certain temps, quand l'équité est là,
ouais.
on peut aller chercher une marge de crédit hypothécaire, on la laisse disponible. Fait que, tu sais, si on n'en a pas besoin, elle coûte absolument rien. Mais la journée qu'on a un investissement ou quelque chose, on se revire de bord, on a notre argent qui est disponible, on fait une avance, une traite bancaire, puis on est capable d'avancer avec ça. Fait que ça, oui, c'est des choses qu'on peut faire, puis c'est des stratégies qu'on va définitivement mettre de l'avant là, pour des gens qui vont acheter soit du locatif ou qui ont acheté un condo, puis là, qui veulent aller en maison. Ils vont louer le condo, mais tu sais, ça peut être ça aussi. Là. Fait okay. que tu sais, on peut jouer avec ça aussi. Là,
fait que pour le vulgariser, autrement dit, moi, les clients achetaient un unifamilial de ouais. 5 ans à 300 000, maintenant, dans vos 400, bon, il y en a 100 000 là, plus ouais. ce qu'ils ont payé sur l'hypothèque. Fait qu'on sait qu'on a 100 000 là. Ouais. Mais là, 100 000, ça peut représenter 20 % d'un triplex à 400 000. Vite fait de même, moi, je me trompe dans mes chiffres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un prêt assuré pour le plex. Ils peuvent prendre ce 100 000-là, puis ça va combler,
oh oui.
puis ils vont s'attacher la banque sur l'unifamilial. C'est ça, exactement ça.
Exactement, oui. Tu okay. peux faire ça, oui. Okay. Puis on voit, c'est ça. Fait que la maison va servir de levier, puis ils vont pouvoir acheter une autre propriété.
Tu peux-tu le faire pour ton chalet?
Oui, tu peux le faire pour un chalet. Tu peux le faire... Tu sais, tu peux le faire, tant que la valeur de la maison est là,
ouais.
puis qu'elle est reconnue, là, il n'y a pas de problème. Tu peux faire pas mal tout ce que tu veux.
Okay.
C'est juste, puis pour avoir une chose en tête, on parlait de refinancement tantôt. Quand on fait un refinancement avec un prêteur régulier, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on va aller à 80 % d'une valeur.
Mm-hmm.
Si on va avec des prêteurs alternatifs, c'est beaucoup moins que ça. Là, on va commencer à parler peut-être à 65, 60. Okay. Mais tu sais, en régulier, c'est 80 % de la valeur qu'on va aller chercher au maximum.
Puis avec la surenchère qu'on a vue dans les dernières années, puis l'évaluation, tu parles que la banque va se rapprocher à 80 % de la valeur. La valeur, la banque va des fois envoyer l'évaluateur sur place.
Oui.
Est-ce que tu as déjà vu un bon écart entre la valeur payée puis la valeur de la banque, le rapport arrivé à la banque?
Bon écart, non. Je te dirais que c'est pas mal.
Okay, ils tiennent à jour dans le marché.
Oui, puis tu sais, les prix qui sont demandés, habituellement, les firmes d'évaluation, ils regardent ce qui s'est vendu dans le secteur, ils vont faire des comparables. Fait qu'habituellement, qu'est-ce que vous faites, vous, comme métier, c'est justement de bien cibler le prix qu'on va demander. Fait qu'habituellement, la job est bien faite. Fait que c'est rare qu'on perd une transaction parce que la valeur n'est pas là. En tout cas, ça m'est déjà arrivé, mais ça n'arrive pas souvent.
Il arrive quoi quand la valeur est différente?
C'est que ce qui arrive, si la valeur est différente, ça, c'est un peu plus tannant. Ça veut dire que s'il y a un écart de valeur, mettons, de 5 000 $ ou de 10 000, mais ça veut dire que l'acheteur, s'il veut vraiment la maison, Il va falloir qu'il augmente sa mise de fonds, okay. de la valeur des corps ouais. qui est là. Là. Fait que ça veut dire que l'acheteur ou le client va avoir à débourser un peu plus ou s'engager un peu plus pour cette propriété-là. Là.
C'est pour l'expliquer, dans le fond, c'est dans une situation où les gens en offre multiple ils ont donné 40 000 de plus que le prix affiché, l'évaluateur y va, mais lui, il ne l'évalue pas 40 000 de plus que le prix payé. Bien, ce 40 000-là, ils vont devoir l'avoir en mise de fonds.
Oui, mettons. Mais sauf que si tu es dans un secteur que la maison s'est vendue 40 000 de plus, il y a probablement des chances que d'autres maisons du même secteur.
Ben, oui, c'est sûr.
Fait que tu sais, s'il fait des comparables, probablement qu'on ne sera pas si. Dans les dernières années, je n'ai pas vu de ça.
Ah, OK. Ça veut dire
j'en ai vu plus que. Je dirais, dans le temps que j'étais dans les banques, j'étais un peu plus en succursale, ça, je l'avais vécu à quelques reprises. Mais ça, depuis même 2017, j'ai pas vu ça souvent.
OK.
On est pas mal. Le marché, tu sais, il a monté, puis je pense que ça, la courbe a bien suivi, puis les valeurs sortent quand même pas pire.
Ça veut dire, dans le fond, une propriété qui est vendue, tu sais, pour parler immobilier un petit peu, mais ça veut dire que, bien, des fois, une propriété qui est vendue en offre multiple, c'est pas parce qu'elle va être payée trop cher, mais c'est peut-être parce qu'elle est affichée pas assez cher, tu sais.
Elle
est sollicitée pour faire de l'offre multiple, puis finalement, elle finit à un prix qui est juste dans le marché. Fait que ça aussi,
c'est important. Ça peut être une maison peut-être unique ou coup de cœur, ouais. que le monde veut. Ben, je suis prêt à payer 20 000 de plus.
C'est ça. Parce que les gens restent toujours avec l'impression qu'ils ont payé. On a payé trop cher, on a payé 9 multiples, 40 000 de plus. Ouais, ça valait pas ça, mais en réalité, c'est qu'elle avait été sollicitée.
Mais c'est vrai que surenchère ou offre multiple, faut pas associer ça à je paye plus, trop cher ou plus cher.
Oui, c'est ça.
Ça, il y a des questions de secteur. Ça, c'est plus vous, là, justement. Ouais. Mais tu sais, si dans un secteur, ça se fait, puis c'est pas mal ça.
Hey Mathieu, j'aurais une question pour toi. Moi, j'ai 24 ans. Admettons, je veux m'acheter une maison d'ici 5-10 ans. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner, des moves que je devrais commencer maintenant, tu sais, ou avant d'acheter, as-tu des conseils à nous donner?
Ben, je dirais que oui. Oui, il y a des choses que tu peux faire déjà. Tu sais, il y a beaucoup de bons outils, mais tu sais, commencer à accumuler ta mise de fonds, je te dirais que ça, c'est une bonne chose, de mettre de l'épargne de côté.
Un CELIAP, j'imagine, c'est une bonne...
Ben, tu sais, d'avoir une mise de fonds, souvent, actuellement, c'est là où le bas blesse. Puis les maisons, comme on disait, ça a augmenté. Fait que la mise de fonds, forcément, elle a augmenté aussi parce que ça suit la courbe. Là.
Ouais.
Fait que ça, je te dirais d'aller en chercher le plus possible de ce côté-là, soit avec des REER, des CELI, CELIAP, des choses comme ça. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire pour aller accumuler, pour avoir des avantages fiscaux. On pourra en parler un petit peu aussi. Là. Mais c'est ça, d'avoir ça, ça peut être une bonne chose, de régler le plus possible des dettes. L'idéal, là, c'est de ne pas s'acheter un véhicule nécessairement avant d'aller faire ton achat de maison. Parce que le véhicule, il est facile à avoir, la maison est plus tough au niveau du crédit. C'est pas les mêmes normes. Fait que ça, souvent, on va perdre la possibilité ou du pouvoir d'achat pour ça. Fait que si...
J'aurais dû t'appeler avant.
Ah, ben écoute, mais on regarde ça, on trouve des solutions, mais tu sais, c'est plus facile quand on arrive sans avoir toutes ces choses-là. Parce que le paiement, mettons, d'un véhicule, c'est 700 $ par mois. Bien, ce 700 $-là, tu peux pas, c'est un 700 que tu peux pas venir emprunter de l'autre bord. Tu sais, fait que, ce que je veux dire, c'est que cette disponibilité-là n'est plus là pour ton achat de maison. Fait que c'est tout ça, c'est toutes des choses à penser, ça. Quand tu te lances dans le processus, s'il y a des cartes de crédit, d'essayer de les baisser le plus possible ou de les maintenir avec un solde. Mais tu sais, l'épargne, je te dirais de se mettre un bon plan d'épargne tout de suite. Si dans 5 ans, c'est justement, c'est le bon temps de commencer à y penser. Puis, tu sais, commencer à faire un petit ménage là, des choses qu'on paye sur le bureau de crédit, tout ça. Puis, je te dirais que c'est pas
des, mal. Des pré-étudiants, ça vient-tu, ça apparaît-tu beaucoup d'un dossier de précal ou.
Ça dépend. Il y a des fois que oui, il y a des fois que non.
OK.
C'est comme je te dis, c'est aléatoire. Là. Il y a des prêteurs qui rapportent, il y a d'autres qui rapportent moins. Fait que, tu sais, ça y va avec. Ça y va avec le bureau de crédit.
Ouais. Mmh. Ah, super.
C'est ça qu'on parle. Peut-être de pré-réno, des déboursés progressifs. Si tu peux un peu nous expliquer ça, comment ça fonctionne.
Oui, dans le fond, pré-réno, c'est que, mettons, en achat, si on reste en achat, puis même, on va aller en achat, on va commencer par ce volet-là. Pré-réno achat, c'est que, dans le fond, les gens, ils disent, ils achètent de la maison, mais il y a des choses qu'il ne faut pas leur affaire, ou ça veut le temps de t'sais, d'arranger ça, de mettre ça à leur goût. Là.
Est-ce que ça peut être réno majeur? Réno esthétique, y a-tu ou juste n'importe quel réno, ça peut faire?
Ça peut pas mal tout faire, OK? C'est sûr qu'il y a des choses peut-être qui seraient plus dures à justifier, mais je te dirais que dans l'ensemble, ça passe. C'est rare qu'on va se faire challenger là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que où est-ce qu'il peut y avoir des limitations? C'est qu'à un moment donné, c'est que si tu achètes... Il y a des prêteurs qui n'en ont pas de limitations. Quand c'est des projets majeurs puis que les gens veulent aller là, il y a des prêteurs, exemple, comme CIBC ou... Mettons, Desjardins, ils ont moins de limites sur le pourcentage par rapport au prix d'achat. Mais par contre, un dossier que t'as aidé, je vous donne un exemple, parce que j'en ai eu un cette année. Eux autres, c'est 10 % du prix d'achat que tu peux aller en réno. Fait que tu sais, si tu achètes une maison 300 000, ton projet va s'arrêter à 30. Sinon, tu t'en vas en exception, puis souvent, ils ne la donneront pas, l'exception. Fait que c'est de savoir un peu les projets des gens, mais ça se fait bien. Puis pour faire une histoire courte, comment que ça marche après pour avoir l'argent et tout ça? Bon, Desjardins, eux autres, fonctionnent avec des présentations de factures. Ils peuvent te débourser au fur et à mesure. C'est pas mal les plus flexibles dans le domaine. La majorité des banques, comment que ça fonctionne? Tu fais tes travaux, tu les supportes, puis après ça,
la banque... Faut que le client le supporte?
Oui, puis après ça, la banque te fait un chèque.
À la fin?
Oui.
OK.
Fait que ça, tout dépendant où on va puis comment qu'on le fait, puis ça dépend... C'est de voir comment les clients sont arrangés, comment qu'ils ont, c'est quoi leur crédit, ils ont-ils une capacité de les supporter? S'ils n'ont pas, ben là, on va peut-être suggérer un prêteur plus qu'un autre. Fait que c'est un peu ça là, l'enjeu, okay. Je te dirais, mais ça se fait bien. Mais l'important, puis ça, c'est vrai, puis ça, je le dis tout le temps aux clients, ce que vous demandez dans la soumission qu'on envoie à la banque, c'est ce qu'il faut faire.
Ouais.
Arrive pas avec d'autres choses, parce que tu, hey, ça, finalement, ça aurait été bon. Je pense que c'était mieux de faire ça, finalement, que qu'est-ce que je t'avais demandé. La banque, elle ne te donnera pas un sou si tu ne fais pas ce qui est demandé dans la soumission initiale. Même si ta rénovation que tu as faite était meilleure, selon toi.
OK. Ça m'amène à c'est ça. À dire, la banque va te demander de la justification. On va te demander des contrats, des dépenses, des factures. Parce que là, si tu loues ta carte de crédit, parce que tu t'en vas t'éclater à Cancun.
Non. C'est bien, écoute.
Ça marche pas. Mieux,
mais tu n'auras pas de ça. C'est ça. Puis, il envoie souvent une firme d'évaluation. Il y a des banques qui vont le payer. Il y a des banques qui vont le mettre à la charge des clients. À peu près une couple de 100$ pour aller constater les travaux qui ont été faits.
Mais go, tu peux te faire un beau bar dans le sous-sol. Puis...
Mais si c'est ça que tu as demandé, puis c'est tu le fais, c'est correct. Mais si tu fais ça, mais que tu avais demandé des portes et des fenêtres, c'est peut-être pas une bonne idée.
Okay.
C'est ça l'idée. C'est juste de faire ce qu'on demande initialement. Puis ça, c'est. J'ai déjà vécu, là, il y a des. Avec les années, ça, je l'ai déjà vécu quand j'étais en succursale, surtout. Là, les gens, ils faisaient d'autres choses, puis là, ils arrivaient, puis ça marchait pas. Fait que c'était de la gestion. Fait que ça, maintenant, les attentes, je les gère assez vite au début.
Dans en haut de 30 %, okay. As-tu des solutions?
Tu veux dire au niveau de 10 %?
Ouais. Ouais, ouais.
10 %, oui, il y en a. Il y a 20 % que la Banque First National va les faire. Fait que tu doubles déjà avec eux autres. Puis sinon, comme je disais, ben, il y a CIBC. Il y a Desjardins qui vont les faire, eux autres, qui sont un peu moins têteux. Excusez l'expression, mais c'est ça. Qui vont prendre le projet dans l'ensemble, vont le regarder, puis vont l'analyser, puis vont le faire. C'est ça.
Okay. Tu parlais, Hugo, des fois des mises en situation que.
À voir, ça, on peut en faire. Maison mobile, ça se fait. Terrain loué, c'est plus tough. Okay? Ça, c'est plus difficile. C'est pas tout le monde qui embarque là-dedans. Souvent, c'est considéré comme un prêt personnel auprès des institutions financières. Fait que, comme courtier, j'ai moins de jeu là-dessus. Puis, je veux mieux être honnête. T'sais, ça, c'est plus la caisse ou la banque qui vont le faire probablement à l'interne. RBC en faisait à l'époque, des maisons mobiles sur terrain loué, puis il y a Desjardins qui en fait aussi là-dessus. Okay. Puis je pense que TD aussi en succursale peuvent faire des maisons mobiles, mais je ne suis pas sûr pour le terrain loué, je ne penserais pas. Okay. Fait que...
C'est pas ça.
On parle de plusieurs, plusieurs trucs, mais j'aurais une question aussi, revenant un peu sur la mise de fonds.
Oui.
Si tu n'as pas nécessairement beaucoup d'argent de côté, c'est quoi les options? J'imagine que la famille peut t'aider, oui. Mais qu'est-ce que ça implique, ça, ou... Les autres solutions, un peu, je ne sais pas si vous, dans vos expériences de courtier...
Les lettres de don que je vois souvent,
ouais.
Ou sinon, cautionnement d'un parent ou...
Ben, si on a, pour la mise de fonds, si on a un don d'un parent proche, de la famille proche, un père, une mère, une soeur, peu importe, là, vous voyez un peu l'idée, ça, il n'y a pas de problème, on peut faire une lettre de don. L'important, c'est que l'argent soit déposé dans le compte, OK? Fait qu'au moment où on fait la demande de financement, il faut que l'argent apparaisse quelque part. Soit qu'on demande les relevés bancaires du parent qui fait le don, mais ça, c'est tout le temps plus touché. Souvent, c'est plus facile d'avoir l'argent directement déposé dans le compte du client avec la lettre de don signée des deux parties. Puis à partir de là, ça règle le problème. Fait que s'il manque, mettons, un 5-10 000 pour faire la transaction ou un 15 000, on peut faire ça aussi. Tu sais, la personne a peut-être une partie de la mise de fonds, mais il en manque, on peut jouer avec ça. Fait que oui, okay. Ça, un don, ça se fait
relativement. Qu'est-ce que ça implique pour la personne qui fait le don? Est-ce qu'elle est rattachée à l'achat?
Non, pas du tout. Dans le fond, elle a donné l'argent, puis la lettre, ce que ça dit, c'est que c'est un don qui est donné à la personne, puis que cette personne-là ne doit pas le rembourser.
Lors de la vente, donc, ben, tu peux-tu le mettre? Lors de la vente, il faut rembourser tel montant.
Bon, ben, ça va être un don, ça le dit, c'est donné.
Okay. Okay.
C'est ça. Fait que ce que je veux dire, c'est que dans la bonne réponse, c'est qu'un don, c'est ça. Fait qu'il est donné, puis sur la lettre, c'est vraiment écrit que ce don-là, il n'est pas remboursable.
Parce que j'imagine que c'est quand même assez fréquent, ça.
Oui. Ouais. De plus en plus, parce que comme je disais tantôt, le prix a monté des propriétés en flèche dans les dernières années. Fait que la mise de... Tu sais, dans le temps, un 5-10 000, fait peut-être faire la job, mais là, on... Tu sais, c'est une propriété de 300, c'est 15 000, 400, c'est 20 000. Fait que tu sais, ça commence à être de l'argent pas mal pour qu'il y ait un premier acheteur, là, tu sais, qui commence, puis tu sais, tout coûte plus cher aussi. Fait que tu sais, d'accumuler cette somme-là, c'est plus difficile. Ouais. Qu'un don va être souvent quelque chose qu'on va utiliser.
T'en vois-tu pas mal, des fois, qu'il faut que tu rajoutes un parent ou dans la promesse d'achat?
Non, je suis chanceux dans mes clients à date. Là, j'ai tout le temps une belle liquidité, là, mais non, je n'ai pas eu beaucoup de ça, là,
Je pense que modèle-là, ça revient un peu que la montée des prix mise de fonds. Moi, j'ai vu une couple de fois qu'il faut rajouter un parent, peut-être des fois deux parents.
Oui.
Ça me ramène aussi sur le sujet qu'on a parlé au début sur l'hypothèque sur 30 ans. Tu voyais que ça s'en venait, ça?
Oui, ben ça, c'est une annonce que j'ai vue que là, je ne sais pas la date exactement. C'est un petit peu plus tard cette année. Il faut faire que je le révise. Il va y avoir la possibilité
de ce que je comprends. C'est pas implanté encore.
C'est pas encore là. Ouais, ils l'ont annoncé. Là, c'est Mme Freeland à Ottawa qui a annoncé ça. Là, je pense hier là, que la qualification va peut-être pouvoir se faire sur 30. Mais je vais juste m'assurer de ça, mais ça va donner une chance.
C'est ça veut dire un changement majeur, ça?
Oh, oui, ça va paraître.
Ah oui, quand même.
Ça baisse quand même pas mal les ratios. Quelqu'un qui est en conventionnel et qui est serré sur du 25, qu'on le met sur 30, le taux est un peu plus cher, mais ça baisse le ratio. Ça a un impact quand même significatif. Okay. Ça va aider des transactions. Parce que c'est justement, ça va peut-être éviter justement des fois d'avoir des parents qui viennent embarquer. Parce que dans les cas où des parents viennent embarquer dans le prêt ou le cautionner le prêt, c'est une question de ratio d'endettement qu'on est trop élevé.
Ça veut dire que c'est ça. Le parent, il va embarquer, mais c'est pas lui qui va payer quand même.
C'est que de la manière que ça fonctionne, dans le meilleur des mondes, c'est que le jeune ou les personnes qui vont faire signer leurs parents, c'est eux autres qui vont payer l'hypothèque. Sauf que s'il venait qu'il est en défaut, qu'est-ce que la banque va faire? Elle va se retourner de bord. Elle va dire toi, t'es responsable du paiement.
Ouais.
Fait que c'est ça. Moi, quand des parents embarquent là-dedans, je leur explique quand même l'implication que ça a, parce que ça a une implication quand même majeure. Faut juste comprendre. Puis pendant le temps qu'ils sont là, ça apparaît au bureau de crédit. On peut pas dire hey, je cautionne, là, puis tu sais. Non, le prêt hypothécaire de ton enfant est sur ton bureau de crédit. Donc, si tu as 1 000 $ de paiement qui passe là, exemple, ou 1 200, bien, si tu as 1 200 $ là, il vient de t'enlever cette capacité-là d'emprunt de l'autre côté. Fait qu'il faut comprendre si tu as des projets majeurs.
Ben oui, c'est important.
Ça peut t'impacter.
Mais j'aimerais ça poser la question à Hugo. Tu as des enfants. Est-ce que tu te prévois peut-être, si tes enfants veulent acheter une maison et ont besoin? Est-ce que c'est quelque chose que...
Non, ben moi, c'est sûr, je l'endosserais. Écoute, quand on voit que le marché a pris 30 à 40 dans les quasiment 10 % là, en moyenne par année, c'est un cadeau que tu fais à ton enfant. Là. Tu l'endosses ou tu lui prêtes l'argent, puis à un moment donné, en dedans d'un an, exemple, un produit qui a pris 10 % de 200 000, il vient de faire 20 000. Fait que tu sais, la mise de fonds, c'est 5 %. Le marché monte tellement que les gens devraient y penser, ça. Tu sais, mathématiquement, quand on le voit en chiffre quand même, ben tu sais, je veux dire, ça te coûte 5 % de mise de fonds pour acheter une maison, mais elle va faire 10 % dans la prochaine année. Fait qu'en dedans de quelques années, même pas, tu sais, tu te rattrapes assez vite, là, tu sais. Moi, j'avais une fois une anecdote qui nous est arrivée, un financement qui a tombé, pas en cause de ses chiffres au niveau des ratios. L'assureur ne voulait pas l'assurer. Puis il n'a jamais donné de justification pourquoi il ne voulait pas l'assurer. On l'a su par la banque. Finalement, le client avait un dossier criminel et l'assureur, le SHL, a refusé de... T'as déjà vu ça?
Oui, j'en ai eu un dossier de même qu'à un moment donné, je le soumettais, puis je l'ai su à la fin. Le client ne me l'avait jamais dit.
OK.
Mais oui, ça m'était arrivé une affaire de même. Puis c'était le créancier même qui avait fait, qui l'avait trouvé, qui me l'avait dit. Parce que moi, sur le bureau de crédit, il n'y avait rien. Là. Je le voyais pas, puis je le savais pas, puis ça n'avait pas été dit. Fait que ça, à un moment donné, moi, j'ai répondu au créancier, écoute, correct, je comprends. Mais oui, ça m'est déjà arrivé une affaire de même. C'est pas la majorité des dossiers, une chance, ça m'est arrivé une fois.
Est-ce que tu poses la question? C'est-tu dans un questionnaire ou pas?
Non, je peux... Je ne sais pas jusqu'où je peux demander cette question-là.
Même l'assureur, vous ne pouvez même pas te le dire, je pense.
Non, il ne disait pas. Non, c'est vraiment confidentiel. Cette personne, c'est pour ça que c'est particulier, okay. Parce que quelqu'un qui a un dossier criminel, c'est pas sur le bureau de crédit, c'est pas de part. Puis là, à un moment donné, tu as refus de l'assureur, mais tu ne sais pas pourquoi.
ça avait tombé à l'eau.
Ça avait arrivé,
Ça avait tombé.
Okay.
Ça avait tombé, c'est ça. Ou si ça avait tombé, ils m'ont dit de pas soumettre le dossier, là, quasiment.
C'est quand même. Ça te bloque dans des transactions. Tu sais, ça doit avoir souvent une façon de un pardon, quelque chose, mais pour à court terme, c'est plus difficile à emprunter. J'ai un de mes amis qui m'a posé la question dernièrement. Sa copine, elle fait beaucoup d'heures supplémentaires, puis tout ça.
Oui.
Elle avait un emploi fixe, mais tu fais-tu une moyenne de 2 ans sur les temps supplémentaires?
Oui, on va faire ça parce que s'il y a du revenu beaucoup qui se gagne en supplémentaire ou du pourboire ou s'il y a des bonus, ça, on va faire une moyenne de 2 ans. Si quelqu'un, c'est récurrent, ce bonus-là, puis ça lui donne, mettons, 10-15 000 de plus, puis qu'on est capable de le justifier, on va le faire. Comme un camionneur aussi, tu sais, que lui, il payait au voyage souvent, il peut avoir beaucoup d'over là-dedans, fait que souvent, eux autres, on va aller chercher un 2 ans de moyenne aussi. Fait que, tu sais, le but, c'est toujours de trouver un moyen d'avantager notre dossier au maximum. Fait que si oui, ça fait quand même quelques années qu'elle fait ça, on va être capable de le considérer, et non juste le salaire de base. Fait que ça, c'est, ça peut être très avantageux.
Je comprends le principe d'une moyenne de 2 ans. Tu fais 2 ans, le total divisé par 2. Si tu as une année très bonne, une année moins bonne, l'année suivante bonne, tu peux-tu aller chercher la 3e année?
On a pu le faire, ça, dans les années COVID. Mais là, les prêteurs sont venus plus sur des standards de 2 ans.
C'est les 2 dernières années.
Oui, je l'ai essayé récemment dans un dossier, puis j'ai pas eu de succès. Ben, bon. Fait que non, écoute...
Tu t'essayes?
Ben oui, ben, c'est parce que puis c'était un événement. Là, la personne avait vécu. Super bonne année en 2020, 2021, 2022. Moins intéressant parce qu'il y avait de quoi dans sa situation personnelle. 2023, super belle année comme en 2020. Mais j'ai essayé de vendre l'idée de 2020 puis ça, puis en expliquant qu'est-ce qui s'était passé, puis ça n'a pas... Ouais. Non, on est vraiment revenu sur une moyenne de 2 ans. Puis il y a des prêteurs, il faut faire attention à ça. C'est qu'il y en a qui vont nous permettre de faire une moyenne, même si, exemple, la dernière année est moins bonne que l'autre d'avant, ils vont nous permettre de faire la moyenne. Il y a des prêteurs qui vont dire « Oh, t'es moins bon là, cette année, là, la moyenne n'est plus possible. » Fait qu'on va prendre ta dernière année qui est moins bonne. Fait que ça, on le joue, puis on va aller avec un prêteur qui est plus généreux sur les moyennes, parce que c'est ça, ça peut jouer contre nous autres aussi, ça. Ouais.
J'imagine que tu travailles beaucoup avec des personnes qui achètent des propriétés pour eux-mêmes. Mais si j'ai déjà ma propriété puis je veux investir dans des logements ou peu importe, j'imagine que tu en fais beaucoup des dossiers comme ça. C'est quoi les particularités?
Ben, les particularités, souvent, ben écoute, oui, on en fait.
Les revenus plus?
Ben, on va analyser. Écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les revenus, on va regarder les dépenses de l'immeuble, on va regarder c'est où ce que ça cadre. Parce que, tu sais, au particulier, ça veut dire, tu sais, il y a un volet commercial puis il y a un volet monsieur, madame, tout le monde au particulier. Au particulier, souvent, ça va aller de 1 à 4 unités pour la plupart, puis même peut-être quelques-uns qui vont pousser jusqu'à 6 unités. Desjardins permet jusqu'à 12 portes. Mais tu sais, après un certain nombre de portes, puis ça tombe au commercial. Fait que ça dépend toujours c'est quoi le projet, ça.
Okay.
Puis oui, mais on en regarde, là. On en regarde, là. Tu sais, je te dirais que du 4 unités, ça se fait. Mais tu sais, si c'est de l'investissement, c'est 20 % de mise de fonds au minimum. Puis ça peut aller à 25, des fois, selon le nombre de portes ou ce qu'on va aller.
Okay.
Mais oui, ça se joue. Puis si c'est plus gros, ben là, à ce moment-là, on parle avec mes collègues chez Orbis au niveau du commercial. J'appelle Jonathan, qui est un de mes collègues, là, le directeur du commercial là-bas, puis on regarde, puis on fait une offre.
Ouais. Au début, tu as parlé de la banque, je pense que c'est Stride, quelque chose comme ça, pour des Plex.
Stride, oui.
C'est quoi ça implique, ça?
Ben, écoute, ce qui est le fun, puis ça, moi, en tout cas, ça m'a allumé, là, parce que j'ai fait 2 dossiers comme ça récemment. Je vous explique. Quelqu'un qui est propriétaire occupé dans un duplex, triplex, quadruplex, ce qu'ils permettent de faire, contrairement aux autres, c'est qu'on prend 100 % des revenus. Okay? Ça veut dire que si l'immeuble rapporte moins t'apporte que toi t'occupes, mettons qu'il te rapporte 2000 $ par mois, tu mets 2000 $ à 100 % des revenus du client. Mais tu enlèves toutes les charges de taxes, tu enlèves toutes les charges de chauffage. Ça veut dire que l'immeuble, tu y mets plus, tu fais juste y mettre l'hypothèque. Tu y mets tous les revenus, puis tu mets juste l'hypothèque. Fait que tu comptes plus de taxes municipales. Mettons que tu as une facture de 5000 $, on l'enlève de là. Puis le chauffage, tu n'en comptes pas non plus pour la propriété. Fait que ça, c'est super. Puis ça fait toute une différence parce que 100 % des revenus, c'est représentatif de la réalité, mm-hmm. de toute façon. Parce que souvent, les banques, ils vont aller prendre du 50 % des revenus, 80 % des wow. revenus selon des banques, puis ils vont mettre plein de charges. Fait que okay. ça, là, tu comprends qu'on se donne un jeu extraordinaire pour faire passer le dossier.
OK, ouais.
Penses-tu que des fois, ils sont trop sur les freins? Penses-tu que des fois, tu trouves que maudit, il aurait la chance d'avoir sa propriété, puis à cause d'un petit détail, il l'a pas, tu sais?
Oui, bien... Cette année, avec les hausses de taux, on a vu à un moment donné les banques qui ont comme. Il y en a quelques-uns qui étaient plus ouverts l'année passée, exemple, pour faire des business ou l'autre année d'avant, puis ils ont mis un peu le frein sur les dossiers, ils analysent plus le risque, ils regardent plus des choses. Je l'ai senti avec certaines banques.
Y a-t-il un jeu de gros bon sens que des fois tu t'es battu pour ton client puis que ça a marché?
Ou c'est vraiment. Oui, ça marche, là, mais de faire renverser une décision, ça a déjà été pris, c'est plus tough.
OK.
Mais oui, ça peut arriver, mais tu sais, souvent, quand le crédit est statué sur le dossier, t'es mieux de prendre ton dossier si tu y crois. D'aller voir un autre prêteur que tu lui fais confiance puis de le laisser ailleurs.
Dans la même banque, j'imagine, si tu changes de banquier, pas de banquier, mais de la personne, ressources avec la même banque, est-ce que ça peut être différent?
Oui. Ou souvent, ils ont la même... C'est ça, exact.
Ben, à la même institution.
Oui, ça peut changer de manière qu'une personne voit le dossier versus une autre. Puis, c'est important d'avoir des liens avec plusieurs banques parce que c'est bon d'avoir des analystes un peu partout que tu connais et avec qui tu travailles. T'sais, chez Strive, là, ça va faire 3 ou 4 dossiers que j'ai fait en moins d'un mois. Puis là, l'analyste, c'est tout à la même.
Ouais. Ouais. T'as-tu une question?
Non.
Ah, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Je pense que ça touche vraiment tout le monde. Là, fait que...
Ben, je pense que oui. Là, une habitation, s'acheter, vivre à quelque part, puis se trouver une maison, puis avoir des stratégies pour y arriver, je pense que oui, on touche quand même à beaucoup de.
Ouais.
Good job.
Mais merci d'avoir été disponible pour nous. Merci de partager ton expérience. Comme Simon dit tantôt, c'est fou comment c'est clair quand tu l'expliques.
Ouais, on a parlé de plein de sujets aussi. Fait que...
c'est incroyable.
Moi, ouais. Une question. On finit, là.
Ouais, mais tu peux aller.
J'ai pas nécessairement de questions, mais je me demandais, tu sais, il y en a qui font des podcasts, c'est juste des anecdotes. Dans la thune, à nous
convaincre
de
finir
ça en beauté, comme on pourrait dire. Là.
C'est peut-être là que tu vas me prendre dans la zone, mettre, écoute, une anecdote.
Ben, c'est correct si tu n'as pas non plus, parce que finalement, ce que je me rends compte, ceux qui font des podcasts basés sur des anecdotes, ils récupèrent tout le temps des dossiers loufoques.
Ça fait des bons TikTok.
T'as mis à avoir des bons dossiers, qu'il n'y a pas de trouble.
Si on me réinvite, je vais penser à ça. Je vais me préparer un peu mieux pour ça.
As-tu un dossier que tu es plus fier ou quelque chose juste pour le client?
Ben, écoute, récemment, oui, il y en a un que j'ai fait. Ouais, ça, c'est, écoute, ça a été tough. Ça a été un dossier un peu plus difficile parce que la nature du dossier et des revenus, tout ça. Mais tu sais, c'était pas un mauvais dossier, là, mais c'était plus... Il y avait quand même pas mal de monde qui empruntait là-dedans. C'est une ressource familiale qui s'occupe de personnes qui ont des difficultés. C'est une famille d'accueil, là, finalement. Okay,
ouais.
Puis eux autres, ils voulaient s'acheter, c'est pas une grosse affaire, là, ils voulaient s'acheter un petit chalet à l'extérieur de la ville, là, pour aller justement décanter. Puis tout ça. Ouais. Puis, ça a été tough, mais on s'est battu. Puis, je comprenais, puis je voyais que c'était du monde qui avait le cœur à la bonne place. Fait que tu sais, ça, c'est toujours valorisant, tu sais, de... Tu sais, les autres, c'est là qu'ils vont libérer.
Ah ouais, c'est des transactions qui deviennent émotives.
Fait que je trouvais ça cool de pouvoir aider et d'avoir réussi le dossier. Ça a été du back and forth un peu avec le crédit. Ça a été, mais j'ai trouvé une manière. Je l'ai escaladé justement parce que la décision au début, c'était pas sûr qu'elle allait le faire.
Okay.
Mais j'ai appelé un directeur justement à la banque. J'ai dit, écoute, là, voici la situation, voici les revenus qu'on a. On peut pas faire. Parce que c'est ça, à un moment donné, le dossier a failli tomber complètement. Mais j'ai dit, là, tu peux pas me dire ça là. On est rendu à minuit moins une, il faut le faire. Là. Okay. Donc, on s'est mis en mode solution. Fait que tu sais, ça, écoute, ça a été.
Fait que souvent, moi, je dis que les banquiers, c'est des cartésiens, qu'on peut pas rien faire au niveau émotionnel. Mais tu es en train de nous dire qu'avec un bon réseau de contacts, tu es capable d'aller jouer sur l'émotionnel, des fois, pour justement qu'ils plient un peu et qu'ils disent, OK, on va y donner.
T'sais. Oui, puis je te dirais aussi, sur le gros bon sens, ça faisait 2 semaines que le dossier était approuvé. Puis tout d'un coup, ils se rendent compte d'une chose. Dans laquelle j'avais quand même annoté mon dossier, puis j'avais dit, écoute, je l'avais mentionné au début, ça veut dire que vous. J'ai réussi à gagner un peu mon point aussi avec ça. Ça, c'est cette fois-là que j'ai peut-être. Ouais, tu m'as posé la question tantôt, j'ai fait renverser une décision un peu à cause de ça aussi.
Ouais, c'est vraiment une belle anecdote, puis c'est une belle situation.
Mais ouais. On avait réussi, puis tu sais, les gens étaient super contents. Fait que, oui, ça a été.
Y a-t-il des clients qui te rappellent 2-3 mois plus tard, puis hey, Mathieu, merci.
Oui, des rappels, j'en ai, puis des gens que j'ai fait à l'époque. Okay. Je fais les dossiers maintenant, puis écoute, on les travaille, puis des gens rappellent. Fait que ça, c'est le fun. Là. Ça veut dire qu'on a fait de quoi de bien aussi. Là.
Good, puis comment que les gens peuvent te contacter?
Bien, par Internet, je dirais, avec mon cellulaire au 418-564-0408, ou encore à mon bureau, mais ça, on prend des rendez-vous, là, c'est au 6700 boulevard Pierre-Bertrand. Puis, écoute...
Mathieu Chagnon sur...
Mathieu.chagnon, @commercialgrouporbis.com, par courriel aussi. Puis, on peut commencer la démarche comme ça, sans aucun problème.
Je sais pas si on peut faire ça, pas nécessairement faire ça vite, peu importe, mais quelqu'un qui commence en courtage ou qui s'intéresse, tu conseilles de faire quoi comme parcours?
Chez Orbis, actuellement, c'est bon qu'on parle de ça. On est en recherche, justement, puis des courtiers qui veulent, même s'ils n'ont pas leur licence actuellement... Comme je disais tantôt, on a une volonté de s'implanter à Québec puis de grossir. Fait que mon directeur, Pierre, il est à la recherche active de gens à Québec qui seraient intéressés à venir joindre l'équipe.
Moi, j'avais signé chez ma bannière avant d'avoir mon permis. Ça m'avait accompagné dans mon cours.
Ben, c'est ça. Puis,
faut-tu avoir un coussin financier pour faire ça? Y a-tu beaucoup de dépenses?
Pas si pire. Le cours, c'est correct, je dirais, mais d'avoir un petit coussin, moi, j'étais content d'avoir un. Fait que je le recommande si... Tu sais, d'avoir quelques mois d'avance, là, parce que, tu sais, au début, quand tu fais tes cours, tout ça, tu peux pas faire nécessairement de dossier.
Ta base de clients.
Fait que, tu sais, c'est ça, exactement. Même si tu as des appels, tu sais, tes réfères, mais tu peux pas vraiment faire de... de commission au début. Fait que, tu sais, d'avoir un petit coussin d'avance pour commencer, ça donne toujours une bonne petite chance, justement.
Puis, je sais pas si t'es pas pire à la pêche aussi, mais si tu veux partager peut-être tes trucs, comment que tu vas trouver des clients pour refinancer.
Ben, écoute,
t'as parlé d'aller voir les courtiers tantôt?
Ben moi, dans le fond, ouais, ben, c'est une bonne question. Écoute, moi, ce que j'ai fait, comme je te disais au début, puis je fais ça encore pas mal. Tu sais, ben, peut-être un peu moins qu'au début, mais tu sais, les courtiers, quand il y a de l'ouverture ou que. Puis je te dirais aussi maintenant, je prends la balle au bon. Quand que j'ai un courtier qui est peut-être pas le courtier qui m'a référencé, mais qu'il y en a un autre dans le dossier avec qui je m'entends bien, puis tu sais, qu'il y a des atomes crochus. Je suis capable de présenter mon offre de service. Fait que ça, maintenant, à cause que j'ai un réseau, je suis capable aussi d'accrocher des gens comme ça. J'ai ma base de données de clients. Tu sais, je les ai toutes les 5 dernières années. Fait que là, les renouvellements s'en viennent. Fait que ça, j'ai déjà tout monté ça comme il faut.
Fait d'avoir tes renouvellements de 5 ans prêts.
Exactement. Ça, je suis déjà prêt. Pour l'année prochaine, ça va être une grosse année là-dedans. Là. Si j'ai commencé en 2020, fait que là, l'année prochaine, on a fait pas mal de 5 ans.
Puis les taux n'étaient pas pareils?
Non. En espérant que ça baisse un peu pour ces clients-là, parce que ça sera pas la même chose, mais quand même.
C'est quoi le plus bas taux que tu as vu?
Le plus bas taux que j'ai vu, j'ai eu du 1,15 variable 1,15. Pendant là, un petit bout pendant la pandémie. Là, qu'on a eu ça. J'ai l'ai fait, ce taux-là, mais là, il est plus à ça. Là. Ça fait un petit bout, c'était un taux variable en plus, à 1,15. C'était avec un prêteur virtuel qui avait ça. Je pense que c'était MCAP, quelque chose du genre.
Puis est-ce que pour le futur, vois-tu des baisses de taux? Qu'est-ce que tu vois?
Oui, je pense que oui, on va avoir des baisses de taux parce qu'on est relativement stable. Mais on voit qu'on n'est plus dans une tendance haussière comme on l'a été. Ma boule de cristal vaut la vôtre. Moi, je dirais que je pense que cet été, on va peut-être avoir une petite baisse de taux. Mais je pense pas que ça va être la baisse là, que tout le monde... Mais ça va commencer à jouer un peu plus vers une tendance qui baisse. Puis c'est pour ça aussi beaucoup qu'on fait du 3 ans avec les clients actuellement. Parce que d'ici 3 ans, bonne chance que le marché se rééquilibre plus vers ce qu'on avait là, un peu avant la pandémie. Là, du 3,5, 4, 3. En 3 à 4, je pense que ça serait un marché qui serait quand même correct. Je pense qu'on va retourner
vers ça. 1,14, c'est trop bas.
Ben, c'était le fun, mais c'est ça, c'était beau. Hein. Dans le fixe, écoute, j'ai fait du fixe à 1,5, 5 ans. Là, fait c'est que... bon. c'est ça. Fait que là, il faut préparer les gens à ça, puis il va falloir trouver des stratégies aussi. Là, parce que les paiements risquent d'augmenter un petit peu.
Ah ouais. Où est-ce que tu vois Mathieu Chandon dans 4-5 ans dans ta carrière?
Écoute, à faire ça encore, j'aime ça. Mm-hmm. Très honnêtement, je me vois encore être courtier. Est-ce qu'éventuellement, j'aimerais ça de passer un peu le flambeau, les connaissances du monde, peut-être une équipe? Je ne ferme pas la porte à ça.
Okay.
Parce que, écoute, ça va faire... Tu sais, je m'en vais vers ça. Tu sais, je pense que j'aime ce que je fais. Puis, tu sais, de passer les connaissances à des gens qui sont comme passionnés de ça aussi, c'est quelque chose qui serait motivant aussi. Fait que, tu sais, peut-être être un mentor ou quelque chose, ou chef d'équipe, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais éventuellement... faire dans ma carrière de courtier.
Là. C'est un peu ce que tu fais aujourd'hui, partager tes connaissances.
Exactement, mais tu sais, juste une discussion comme ça, avoir quelqu'un qui, tu sais, c'est ça, j'aime ça au bout, puis expliquer ce que je fais, puis essayer de le vulgariser le plus possible, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, fait que peut-être qu'éventuellement, ça serait ça.
Ouais, merci beaucoup. Dans la question, les boys?
Non, ça va. Merci, Mathieu.
Ouais, c'est gros, merci.
Très enrichissant, on a appris
plein de choses. C'était le fun, merci de l'accueil, les gars, c'était vraiment, cool. Vraiment agréable aussi, là.
Merci beaucoup, Mathieu. J'inviterai tout le monde, si vous avez aimé ça, à mettre un like, un j'aime, 5 étoiles, peu importe si où que tu l'écoutes. Envoie ça à ton frère, ton ami, ta mère, peu importe, ça peut intéresser tout le monde. Fait que je te laisse le mot de la fin, Phil.
Ben c'est ça, on est dans le salon de l'immobilier. On est sur YouTube, Spotify, Balados. N'hésitez pas à mettre ça 5 étoiles, ça nous aide dans notre progression du podcast. Aussi, merci à On est Live de nous accueillir. On a Mathieu à côté de moi qui est vraiment une personne généreuse. On est vraiment content de l'avoir. Il a l'air plus petit à côté, plus bas, mais c'est vraiment une grande personne avec un grand cœur. Je suis vraiment content. Un gros merci d'avoir été là.
Ah, merci Hugo aussi d'être venu. C'est super cool. Puis encore une fois, pour l'impression de vêtements, Twin Shirt, on est là pour vous servir.
Yes. Un gros merci tout le monde.
Yes.
Merci.
Yes.
Merci d'avoir écouté dans le salon de l'immobilier, présenté par Twin Shirt. Si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à vous abonner à nos pages Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. On a bien hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À bientôt.